La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le titre de la présentation de ce matin est « L'Église du reste face au vent de doctrine ». Le texte de base de cette présentation se trouve en Éphésiens chapitre 4, du verset 7 jusqu'au verset 16. Où allons-nous? Verset 7 jusqu'au verset 16. Éphésiens 4, du verset 7 à 16. Et là, nous lisons que « Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené captive une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » si ce n'est qu'auparavant, il était descendu dans les parties basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin qu'il remplisse toutes choses. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottant et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ, de qui tout le corps, bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures, tire son accroissement selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même dans la charité. Voyez-vous, les prophètes sont du nombre de ceux que Dieu a placés dans son Église, afin que celle-ci puisse tenir bon face au vent de doctrine. Et lorsqu'ils sont de Dieu, la confiance dans leur ministère prophétique fait toute la différence, mes amis. En effet, en 2 Chroniques, chapitre 20 et au verset 20, où allons-nous maintenant? Exact. 2 Chroniques, chapitre 20 et au verset 20. Nous lisons là. Puis, le matin, ils se levèrent de bonne heure et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit, « Judas et vous, habitants de Jérusalem, écoutez-moi, croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. » Ainsi, notre réussite, mes amis, dépendra de notre acceptation du ministère prophétique venant de Dieu. Et Satan n'a jamais souhaité la réussite du peuple de Dieu. Et lorsque nous considérons Apocalypse 12, verset 17, nous voyons qu'il en sera de même jusqu'à la fin, jusqu'avec l'Église du reste. En effet, nous connaissons ce verset, je le pense. Apocalypse 12, verset 17, nous avons là les paroles suivantes. Où nous lisons, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. En Apocalypse 19, verset 10, l'ange dit à Jean que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Et en Apocalypse 22, verset 9, il lui fait comprendre qu'il s'agit des prophètes, d'accord ? De l'esprit qui anime les prophètes. Ainsi, mes amis, Satan soufflera sur l'Église du reste toutes sortes de vents de doctrine, mais cette dernière, voyez-vous, tiendra bon, notamment, et ce notamment grâce au témoignage de Jésus, le don de prophétie. Chers frères et sœurs, je dois vous dire quelque chose de très sérieux. Si arrivé à l'heure d'aujourd'hui, nous avons un problème avec l'esprit de prophétie Et je crois que cet esprit de prophétie a, en ces derniers jours, été manifesté dans le ministère de Sœur Ellen G. White. Permettez-moi de vous dire, mes amis, que vous allez être emportés d'une manière ou d'une autre. Et il faut que cela soit clairement établi, mes amis. Nous ne pourrons pas faire partie de l'Église du reste, mes amis. Nous ne pourrons pas y rester si Satan réussit à éliminer notre confiance dans le don de prophétie, mes amis. Donc, nous devons véritablement veiller à cela. Nous devons véritablement veiller à cela. D'accord? Car en Ésaïe, remarquez, en Ésaïe 8, rapidement, c'est un texte que je n'avais pas prévu, mais c'est important. Ésaïe 8, verset 16, il est dit ici, enveloppe cet oracle, celle, cette révélation parmi mes disciples. Le terme oracle ici vient du mot hébreu Tehuda, ok? Et c'est ce même mot qui est traduit par témoignage au verset 20. À la loi et au témoignage, d'accord, Tehuda? Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui, d'accord? Donc, il faut que ce témoignage soit enveloppé, c'est-à-dire affermi en fait, préservé. Car si l'on ne parle pas ainsi, mes amis, il n'y aura pas d'aurore. Pas d'aurore pour le peuple. Le peuple ne verra pas la lumière. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde chrétien, et tout particulièrement parmi ceux qui croient que Jésus revient bientôt, à savoir les adventistes, eh bien, il y a véritablement, mes amis, des vents de doctrine. Et cette présentation pourrait être beaucoup plus longue que cela. Et en réalité, je pense que chaque année, nous pourrons faire une présentation comme ça et présenter les différents vents de doctrine qui sont en train de souffler en ce moment. Mais j'aimerais vous parler d'une première chose. Considérons Daniel 11, versets 40 à 45. Je pense que nous connaissons tous ces versets, d'accord? Nous savons de quoi cela nous parle. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, remarquons que ce que cela nous présente. Ouvrons nos Bibles en Daniel 11 et lisons rapidement du verset 40 à 45 pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces versets. Il est dit, « Et au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les terres, se répandra comme un torrent et passera. Il entrera dans le pays de gloire, et plusieurs pays succomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab et les principaux des enfants d'Amnon. Il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa droite, mais des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront le troubler, et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. » Et oui, juste après, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. » Alors, j'ai lu le verset 1 et vous allez comprendre pourquoi plus tard. C'était pour contextualiser, pour voir qu'est-ce qui se passerait après ces choses. Mes amis, lorsque nous lisons quelque chose, lorsque nous écoutons quelque chose, nous devons véritablement prêter attention. Car voyez-vous, même une absence de guillemets peut faire toute la différence. À une question concernant la raison de l'importance de Daniel 11, versets 40 à 45 pour notre époque, ainsi que la raison pour laquelle la dénomination des Adventistes du septième jour n'a pas la compréhension profonde de ces versets, qu'il a sur eux, Jeff Pippenger répondit la chose suivante. « Je ne suis pas sûr de pouvoir comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas ces versets. En Daniel 12, verset 1, Michaël se lève. Or, Daniel 12, verset 1 commence en disant « en ce temps-là », identifiant ainsi que Michaël se lève quelque part dans l'histoire des versets précédents. Nous comprenons que lorsque Michaël se lève, le temps de grâce pour l'humanité se termine. Donc, j'ai compris que les versets 40 à 45 sont les événements prophétiques qui conduisent à la fin du temps de grâce. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème avec la déclaration de M. Pippinger. Et si c'était tout ce qu'il disait, eh bien, on ne pourrait pas lui en vouloir. Car tout le monde a le droit d'avoir sa propre opinion, voyez-vous. Mais après cela, dans sa phrase suivante, il cite Ellen White pour soutenir son interprétation. Et remarquez ce qu'il dit. Aussi, dans La tragédie des siècles, à la page 644, Sir White déclare « Les événements de la fin du temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés. Mais une foule de gens ne comprennent pas mieux ces choses que si elles n'avaient pas été révélées. Satan veille à effacer toute impression qui pourrait rendre les hommes sages à salut, et le temps de détresse les trouvera non préparés. » Et à la suite de cela, M. Pippinger explique « Ainsi, l'inspiration nous dit que les événements qui conduisent à la fin du temps de grâce ont été clairement annoncés. Et la révélation la plus claire de la fin du temps de grâce est Daniel 12, verset 1, quand Daniel se lève. » Alors, il a mis Daniel, moi je pense qu'il voulait dire Michaël, mais j'ai traduit comme tel. Ainsi, les six derniers versets de Daniel 11, selon l'inspiration, ont clairement été annoncés. Et elle dit que ces événements sont des vérités importantes. Elle dit que Satan efface toute pensée qui pourrait leur faire comprendre ces versets. Et elle dit qu'à cause de cela, ces personnes ne seront pas prêtes quand le temps de grâce se terminera. Les événements qui conduisent à la fin du temps de grâce ont été clairement annoncés. Madame White le dit. Mais quels sont ces événements, mes amis? Quels sont ces événements? Monsieur Pippinger dit que ce sont les six derniers versets de Daniel 11. Et il affirme qu'Ellen White dit aussi cela dans la citation dont il se sert dans La tragédie des siècles à la page 644. Avant de statuer sur la véracité de la déclaration de Monsieur Pippinger, lisons les phrases suivantes à cette déclaration dans La tragédie des siècles, pour voir à quoi Ellen White rattache cela. Quand Dieu envoie au monde des messages si importants qu'il les représente par des anges volant au milieu du ciel, il exige que toute personne douée de raison y prenne garde. Les terribles châtiments qui menacent les adorateurs de la bête et de son image, Apocalypse 14, versets 9 à 11, devraient nous pousser à étudier cette prophétie avec le plus grand soin, afin d'apprendre ce qu'est la marque de la bête et comment on peut l'éviter. Mes amis, les événements de la fin du temps de grâce et la préparation en vue du temps de détresse qui ont clairement été annoncés sont, d'après Ellen White, les messages des trois anges et pas Daniel 11, 40 à 45. Seul Dieu peut juger et dire si M. Pippinger a fait une erreur accidentelle en omettant le contexte ou s'il a volontairement décidé d'ôter le texte de son contexte pour en faire un prétexte, pour insister comme il le fait, quasiment exclusivement sur Daniel 11 et limite en mettant de côté le message des trois anges. Et en dépit de cela, voyez-vous, nous ne sommes pas en train de dire ici qu'il ne faut pas étudier Daniel 11, versets 40 à 45. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, d'accord? Cela ne veut pas dire que ces versets ne sont pas importants ou qu'ils ne vont pas se produire juste avant la fin du temps de grâce. Non. Ce n'est pas ce que je dis ici. Par contre, ce que je veux dire, c'est que les conclusions de M. Jeff Pippinger ne peuvent pas être soutenues par la déclaration d'Ellen White faite dans La tragédie des siècles. Et voyez-vous, en agissant de la sorte, Jeff Pippinger et ses acolytes francophones, et vous les connaissez très bien, qui insistent de manière quasiment presque exclusive sur Daniel 11, versets 40 à 45, et ce, sur une vision erronée de certaines déclarations d'Ellen White, eh bien, il détourne nos regards, mes amis, des moyens les plus importants que Dieu a mis en place pour représenter, pour tout du moins préparer un peuple pour la fin du temps de grâce, ainsi que le temps de trouble à venir, les messages des trois anges. Mes amis, il n'y a aucune, je vous le dis, il n'y a aucune préparation, il n'y a aucun message de préparation. Il y a peut-être des événements qui nous sont donnés avant la fin du temps de grâce en Daniel 11, 40 à 45, oui. Mais il n'y a aucun message de préparation, mes amis, pour le peuple de Dieu. Le message de préparation se trouve en Apocalypse 14. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Après, sortez de Babylone. Et après ça, gardez les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça, c'est un message de préparation, mes amis. D'accord? Mais quand vous avez la vision de M. Pippenger et que vous dites que « Ah, c'est Daniel 11, c'est lui le plus clair et c'est ce que Ellen White parlait. » Non, mes amis, ce n'est pas ce que dit l'esprit de prophétie. Vous voyez? Ce n'est pas ce que dit l'esprit de prophétie. Donc, nous devons laisser l'esprit de prophétie dire ce qu'elle a à dire. Sinon, nous serons emportés dans des vents de doctrine, tout comme l'autre vent de doctrine que nous avons exposé, qui était les 2520, mes amis, qui aujourd'hui a refait son apparition avec M. Pippenger et ses associés. Les noms divins hébreux. Aujourd'hui, il y a un mouvement, de personnes, et même au sein de l'adventisme, qui disent que nous devons, lorsque nous nous référons au Père, au Fils, eh bien, nous devons employer les mots Yeshua, Yahushua, pour le Fils, Yahvé ou Yahweh ou Yahwah pour le Père, et Yeshua HaMashiach pour Jésus-Christ, Elohim à la place de Dieu, et c'est déjà très bien, ces expressions-là. Et donc, il y a vraiment, avec ces personnes-là, un dégoût, un rejet du grec, en fait. Okay? Et il nous faudrait, à les entendre, parler exclusivement que hébreu, en fait. Mais, voyez-vous, je voudrais vous poser une question. Si Dieu attendait de nous à ce qu'on prononce son nom, le nom de son fils et des choses qui se réfèrent à lui en hébreu, dites-moi pourquoi il a permis que le Nouveau Testament soit écrit en grec. Ah oui, parce que en Acte 4, verset 12, et nous connaissons tous ce verset, je pense. Acte 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit en Acte 4, verset 12? Il est dit... Ce Jésus, ok, ce Jésus, ok, ça vient du grec, Jésus en grec, ok, ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre de l'homme. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et encore, remarquez 1 Corinthiens 1, verset 2. 1 Corinthiens 1, verset 2. 1 Corinthiens 1, verset 2. « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, Jesus Christus, qui sont appelés saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur, Jesus Christus, Jésus-Christ. » C'est-à-dire, ok, eh bien, Jesus Christus, leur Seigneur et le nôtre. D'accord? Les Grecs qui ont reçu l'Évangile, mes amis, de la part des apôtres, eh bien, c'est ce qu'ils ont reçu, en fait. Lorsqu'ils priaient, lorsqu'ils invoquaient le Seigneur, c'est ce qu'ils prononçaient, mes amis. Donc, il est clair que, à l'époque de l'Église primitive, des Grecs ont invoqué en grec le nom du Sauveur et ont été sauvés en l'invoquant, mes amis. D'accord? Ils n'étaient pas dans la nécessité de parler l'hébreu pour cela. Et, de plus, les personnes qui insistent là-dessus de manière quasiment, je dirais, fanatique, de manière quasiment systématique, eh bien, ils semblent oublier que la signification profonde du nom, en fait, c'est le caractère. Okay? Or, c'est bien cela que Dieu attend de nous, que nous puissions développer, que nous puissions former, c'est-à-dire un caractère. Autrement, Romains 2, versets 13 à 15, n'aurait eu aucun sens. Remarquez Romains 2, versets 13 à 15. Il est dit, « Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. » Ok? Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur, leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. Mes amis, faire l'évangile se résumer à une question d'orthographe revient à passer à côté de l'essentiel de l'évangile, mes amis, à savoir connaître le caractère du Créateur et être transformé à son image. Et une autre chose, une fois qu'on a établi cela avec la Bible, une autre chose est intéressante, c'est de voir que les pionniers adventistes ont prêché le message des trois anges contenant l'évangile éternel, n'est-ce pas? Or, l'emploi des noms hébreux du Père et du Fils ne faisait pas partie de leur message, du message qu'ils ont proclamé. Par conséquent, mes amis, la doctrine selon laquelle il faudrait et nous devrions employer les noms hébreux de la divinité n'a pas sa place. N'a pas sa place, je vous le dis, dans l'enseignement des prédicateurs du message des trois anges aujourd'hui. Et vous savez quoi? Hélène White déclara quelque chose maintenant. Remarquez cela. Dans Message choisi, volume 1, à la page 41, paragraphe 3. « Bien que je dépende de l'Esprit du Seigneur pour écrire mes vues, comme pour les recevoir, les mots que j'emploie pour décrire ce que j'ai vu sont les miens. Sauf quand il s'agit de déclarations faites par un ange que j'ai soin de placer entre guillemets. » Ok? Donc, autrement dit, Hélène White est en train de dire que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur elle, il lui montre des choses et elle les formule avec ses propres mots. Sauf quand un ange lui parle. Là, elle écrit exactement ce que l'ange dit et elle le met entre guillemets pour le faire savoir aux gens. D'accord. Alors, considérons ce qu'un ange a déclaré à Hélène White dans Premiers Écrits à la page 64, paragraphe 1. « Dans une vision qui me fut donnée le 27 juin 1850, l'ange qui m'accompagnait me dit, « Le temps est presque fini. Reflétez-vous l'image de Jésus comme vous le devriez ?» Lorsque vous regardez l'original anglais, Hélène White était anglophone, elle écrivait en anglais, elle n'a pas marqué Yahushua ici. Elle a marqué Jesus, mes amis. Et pourquoi elle a marqué Jesus? Vous savez pourquoi? Parce que l'ange lui a dit Jesus, mes amis. Et à la page 50, paragraphe 1, l'ange demanda, « De tels gens peuvent-ils aller au ciel? » Un autre répondit, « Non, jamais, jamais. » Ceux qui se désintéressent de la cause de Dieu sur la terre ne pourront jamais chanter là-haut le cantique des rachetés. Je vis que Dieu achèverait bientôt son œuvre ici-bas et que ses messagers devaient se hâter de réunir ses brebis dispersées. Un ange demanda, « Tous sont-ils des messagers ?» Un autre répondit, « Non, non, les messagers de Dieu ont un message. » Dans l'anglais, ici, Ellen White, lorsqu'elle rapporte les propos de l'ange, elle ne dit pas que l'ange a dit « Elohim ». Elle dit « God ». C'est-à-dire Dieu, mes amis. Oui, God. D'accord? Et poursuivons. Premiers Écrits, page 66, paragraphe 1. L'ange dit, « Le petit reste qui aime Dieu et garde ses commandements, qui demeure fidèle jusqu'à la fin, jouira de cette gloire. Il sera pour toujours avec Jésus et chantera avec les saints anges. » D'accord? Encore une fois, « God and Jesus » dans l'original anglais, et le français ne fait que transcrire avec l'accent et remplacer par le mot « Dieu », mes amis. C'est ce que l'ange a dit. L'ange a dit cela, et n'a fait que rapporter les propos de l'ange. Poursuivons avec « Message choisi », volume 1. Alors, l'ange me dit, « Ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus et qui obéissent aux paroles du Christ. Ils sont la lumière du monde. » Sans la présence de ces lumières, le jugement divin ne tarderait pas à frapper les transgresseurs de la loi de Dieu. Je vis ensuite ces petits jets de lumière augmentés de clarté briller de l'est à l'ouest, du nord au sud, si bien que toute la terre en fut illuminée. Là, lorsque l'ange parla à Ellen White, il a dit Christ, c'est-à-dire Christ. Il n'a pas dit Amashia, ok? Il a dit Christ, mes amis. Et il n'a fait que rapporter ce que l'ange a dit. Et à de nombreuses reprises, Ellen White a elle-même parlé de Jéhovah. Remarquez, Premiers Écrits, page 60, paragraphe 1. Okay? Ce temps viendra bientôt. Nous aurons alors à nous appuyer fermement sur le bras puissant de Jéhovah. Elle n'a pas dit Yahweh, hein, Yahvé, hein, elle a dit Jéhovah, d'accord? Car tous ces grands signes et ces prodiges ont pour but de séduire le peuple de Dieu et de le renverser. Dans Jésus-Christ, page 97, paragraphe 1, Satan assista au baptême du Sauveur. Il vit la gloire du Père enveloppant son Fils. Il entendit la voix de Jéhovah assistant la divinité de Jésus. OK? Mes amis, si ceux qui enseignent que nous devons employer les noms hébreux de la divinité ont raison, alors permettez-moi de vous dire que Ellen White et les anges ne savaient pas comment se référer au Père et au Fils. Et voyez-vous, tel n'était pas le cas. OK? Je pense que les anges qui sont venus et l'ange qui accompagnait Ellen White étaient fidèles dans sa mission. OK? Et je ne pense pas que nous pouvons et que nous sommes plus intelligents que l'esprit de prophétie ou que le ciel, voyez-vous. Et la raison pour laquelle nous avons ce vent de doctrine-là, mes amis, est très simple. C'est très simple. Et elle nous l'a dit. Remarquez cela. Évangélisé à la page 545, paragraphe 3. La prière de la foi est la force principale du chrétien. Et elle prévaudra certainement contre Satan. C'est pourquoi l'adversaire insinue que nous n'avons pas besoin de prier. Il déteste le nom de Jésus, notre avocat. Permettez-moi de m'arrêter ici. Quel mot qu'il y a dans le texte original ici? Madame White dit que Satan déteste le nom de Jésus. Je pense que Jésus et Yahushua, bien compris, nous emmène vers la même personne. Mais ici, remarquez qu'elle dit Jésus. Jesus en anglais. Je pense qu'il n'y a pas lieu de prêter attention aux personnes qui enseignent ces choses-là. Cela est une distraction, mes amis. Cela est une distraction. Il y a aussi un enseignement qui est en train de se propager depuis plusieurs années et qui commence à rentrer dans l'adventisme. C'est la théorie selon laquelle Israël, okay, Israël selon la chair, les Israélites, okay, qui étaient en Égypte, après qui ont passé la mer Rouge et qui sont entrés en Canaan, eh bien qu'ils étaient noirs. Okay? Et j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs personnes qui... ont adopté cette idée. Alors, de manière à pouvoir savoir ce qu'il en est, d'accord? Remarquez avec moi Genèse, chapitre 6, verset 10. Où allons-nous? OK. Là, il nous est dit, « Et Noé engendra trois fils. » Sem, Cam et Japhet, d'accord? Et concernant leur généalogie, eh bien, elle se trouve en Genèse chapitre 10, d'accord? Et je ne prendrai pas le temps de tout le lire, je vous lirai juste le verset premier et vous verrez plus tard, vous pourrez vous-même établir la généalogie, d'accord? Voici les descendants des fils de Noé, Sem, Cam et Japhet, auxquels naquirent des enfants après le déluge, d'accord? Je souhaite juste vous apporter une information maintenant. Le mot « Cam », le nom « Cam » ici, signifie, d'après The Exhaustive Dictionary of Bible Names, à la page 93, « chaud, noir, sombre ». « Cam » signifie notamment « chaud, noir, ou sombre, d'accord? Et lorsque vous regardez la généalogie, mes amis, vous vous rendez compte que Japhet, il est l'ancêtre des Mèdes, des Yonans, c'est-à-dire des Grecs, et ainsi que de plusieurs nations qui, à l'époque du Nouveau Testament, vivaient dans ce que l'on appelle maintenant l'Asie mineure ou le sud de la Russie, d'accord? Sem, pour sa part, hein, eh bien, il est l'ancêtre des Babyloniens, des Assyriens, des Araméens, des Arabes et des Hébreux. Tandis que Cam, lui, il est l'ancêtre des Africains, des Arabes, des Cushites, c'est-à-dire des Éthiopiens, des Égyptiens et des Cananéens. Donc, remarquez que les Africains, lorsque vous étudiez la généalogie, d'accord? Alors, vous ne verrez pas marqué Africain dans le texte biblique, mais lorsque vous faites des études poussées, vous vous rendez compte que les Africains, en fait, descendent de Cam. Et cela se tient, puisque Cam signifie quoi? Noir, chaud, sombre. D'accord. Et voici une carte. Il y a un peu beaucoup de soleil maintenant, mais je pense que vous pouvez peut-être la voir. En fait, en haut à gauche, vous avez l'emplacement de Japhet. Ici, vous avez l'emplacement de Cam, okay, qui est justement sur l'Afrique. Okay. Nous avons ici l'Éthiopie, etc. Et là, nous avons ce qu'on appelle la Palestine, donc les Sem qui étaient placés là-bas. Okay. Donc, voilà comment ils s'étaient répartis, ces trois fils, ainsi que ceux qui les ont succédés. D'accord? L'esprit de prophétie vient nous confirmer cela, en fait. Remarquez cela. Dans Manuscript Releases, volume 4, à la page 8, paragraphe 1, « Combien peu l'esprit du Christ a-t-il été manifesté dans le traitement réservé à la race de couleur dans ce pays dit chrétien ?» La couleur du nègre, et en anglais, elle écrit « negro », ok? Et lorsque vous recherchez, cela peut être traduit littéralement par « nègre » ou « noir », si vous préférez. Bon, moi, j'ai traduit littéralement. Donc, la couleur du nègre, caractéristique de sa descendance africaine, est une marque d'humiliation pour toute la race à cause des préjugés du peuple blanc contre eux. D'après l'esprit de prophétie, eh bien, la couleur noire, mes amis, est une caractéristique de sa descendance africaine. D'accord? C'est ce qu'elle révèle, en fait. OK? Et quand on sait que les Africains ont pour ancêtre Cam, vous comprenez d'où est-ce que ça vient, en fait. D'accord? Mais juste une chose, mes amis. Les Hébreux, quel était leur ancêtre? Japhet? Cam? Non. Sem, mes amis. Et Sem. Et remarquez la chose suivante, ce qu'elle dit dans The Spirit of Prophecy, volume 1, à la page 286, paragraphe 2, concernant Séphora. Elle va parler de Séphora, la femme de Moïse. Et elle va commencer avec Myriam, parce que Myriam avait un problème. Elle avait des ressentiments vis-à-vis de la femme de Moïse et vis-à-vis du choix que Moïse avait fait. Okay? Et on nous parle de cela en Nombre 12, verset 1. Et Ellen White commente ce texte-là en disant, « Elle, Myriam, s'est plainte de Moïse parce qu'il avait épousé une femme éthiopienne au lieu de prendre une femme parmi les Hébreux. La femme de Moïse n'était pas noire, mais son teint était un peu plus sombre que celui des Hébreux. » Je vous pose une question. Et là, je vous demande de faire travailler votre logique, mes amis, et votre bon sens. Et nous avons tous un bon sens. Et si nous ne le respectons pas, ça c'est un choix, mais nous avons un bon sens, mes amis, et les choses sont claires. Si les Hébreux ont une couleur et qu'ils sont plus clairs que quelqu'un qui n'est pas noir, est-ce que les Hébreux sont noirs, mes amis? Je reprends. Si les Hébreux sont d'une couleur et qu'ils sont plus clairs que quelqu'un qui n'est pas noir, est-ce que les Hébreux sont noirs? Non, mes amis. Vous savez, je n'ai rien contre les Noirs. Mon père est noir, ma mère est blanche, je suis métisse. Et moi, j'ai grandi en Martinique, voyez-vous. Et on ne sait pas l'école, pas ces personnes ici. OK? Bon, donc je n'ai rien contre les Noirs. Mais le seul problème, mes amis, ici, c'est que nous avons des personnes qui se saisissent d'une idée et qui en font toute une doctrine. Et malheureusement, cela est erroné, mes amis. Cela est erroné et on va insister là-dessus, en fait. On va insister là-dessus. Et on va insister là-dessus à tel point qu'on va chercher à le faire rentrer dans le message des trois anges. Mais mes amis, la couleur des Hébreux n'a pas sa place dans le message des trois anges, mes amis. Qu'il soit rouge, noir, blanc, cela n'a pas sa place dans le message des trois anges, mes amis. C'est une distraction. C'est une distraction. Ce qui doit nous intéresser, c'est ce qui est marqué en Romains 9, versets 6 à 8. Ouvrons nos Bibles, je vous prie. En Romains 9, versets 6 à 8. Romains 9, versets 6 à 8. Voilà ce qui devrait nous intéresser, mes amis. Romains 9, versets 6 à 8, où il est dit, « Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera une postérité de ton nom. » Ok? C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. D'accord? Et Galates, en Galates 3, l'apôtre Paul va venir eh bien, compléter ce qu'il a dit ici. Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3. Lisons le verset 7, du verset 7 à 9, après du verset 13 à 16 et après du verset 26 à 29. Je vais le prendre avec vous. Suivez-moi en Galates 3, verset 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9 dans un premier temps. Galates 3, 7 à 9. Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi a évangélisé par avance à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». C'est pourquoi ceux qui croient sont bénis en Abraham qui a cru. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Afin que la bénédiction d'Abraham se répandît sur les gentils par Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Lorsqu'un contrat a été confirmé par un homme, personne ne le casse ou n'y ajoute rien. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « à ses postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule. Et à ta postérité, Qui est quoi? Christ. OK? C'est Christ, la postérité. D'accord? Abraham a eu plusieurs enfants. Mais est-ce que c'est à eux là dont on parle? Non, mes amis. C'est pas à l'Israël selon la chair qui sont sortis de ses reins, en fait. C'est à ceux qui ont la foi en Jésus. Et lisons à partir du verset 26 jusqu'à la fin du chapitre. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni hébreu. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. Mes amis, voilà l'Israël qui a de l'importance à la fin des temps, mes amis. Avec la croix, du moment que Christ est monté sur la croix, mes amis. Voilà l'Israël que Dieu regarde, mes amis. Voyez-vous? Et en Message choisi, volume 2, à la page 543, paragraphe 4, il nous est dit, « Le Christ est venu sur cette terre porteur d'un message de grâce et de pardon. Il a fondé une religion grâce à laquelle juifs et gentils, noirs et blancs, libres et esclaves sont réunis dans une même fraternité, reconnus égaux aux yeux de Dieu. Le Sauveur aime tout être humain d'un amour sans bornes. Il voit en chacun des possibilités d'amélioration. Il accueille avec une énergie et un espoir divin ceux pour lesquels il a donné sa vie. Sa force les rend capables de vivre une vie chrétienne en bonnes œuvres, remplie de la puissance de l'Esprit. » Voilà la religion de Christ, mes amis. La religion de Christ. Elle ne fait pas de distinction entre les noirs et les blancs. On ne prendra pas le temps de discuter de ces choses-là, mes amis, comme le faisaient les Juifs. Ah, mais on est bien des enfants d'Abraham. Ah, vous ne l'êtes pas. Ah, vous ceci. Ah, vous cela. Mais c'est ça, en fait, mes amis. Savoir si les Juifs sont noirs, mais déjà, c'est faux. On l'a vu avec l'esprit de prophétie, désolé de le dire. Mais en plus, ça n'a rien à faire dans le message des trois anges, mes amis. Message choisi, volume 2, à la page 546, paragraphe 1. Quand un pécheur se convertit, il reçoit le Saint-Esprit qui fait de lui un enfant de Dieu et le prépare à occuper une place parmi les rachetés et les troupes angéliques. Il devient co-héritier du Christ. Tout membre de la famille humaine qui se donne au Christ, qui écoute la vérité et lui obéit, devient membre de la même famille. Qu'il soit ignorant ou instruit, riche ou pauvre, païen ou esclave, blanc ou noir, Jésus a payé le prix de son âme. S'il croit en Christ, il est purifié par son sang. Le nom du noir est inscrit dans le livre de vie à côté du nom du blanc. Tous sont un en Christ. Naissance, situation, nationalité ou couleur ne sauraient ennoblir ou dégrader un homme. C'est le caractère qui fait l'homme. Si un peau rouge, un Chinois ou un Africain donne son cœur à Dieu avec foi et obéissance, Jésus l'aime, quelle que soit sa couleur, et l'appelle son fils bien-aimé. Voilà l'évangile, mes amis. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Et lorsque on s'égare et on s'éloigne de ça, mes amis, qu'est-ce qu'on va après développer? On va après développer des théories, par exemple, selon lesquelles eh bien, les 144 000, en fait, ce sont que des Noirs, et la grande foule, les Blancs seront dedans, ce serait ça, en fait, si on parle sur ce principe-là, en fait. Non? Et ce genre de théorie-là? Mes amis, ça n'a pas de sens, mes amis. Ça n'a pas de sens, mes amis. C'est une perte de temps, c'est une distraction, mes amis. C'est une distraction, je vous le dis. Et nous allons le voir dans quelques avec le prochain souffle là qui est en train de s'abattre sur nous depuis plusieurs années, c'est le retour en Palestine. D'accord? Il y a de ceux qui croient que, eh bien, le peuple de Dieu, alors les croyants, devront retourner en Palestine avant le retour de Jésus. D'autres pensent que l'Israël selon la chair, ok, tous les Israélites selon la chair, de leur vivant, à un moment, ils vont tous retourner en Palestine, d'accord? Et, alors, il y a différentes nuances dans ces croyances, mais l'idée centrale est qu'à un moment, il va falloir retourner en Palestine avant le retour de Jésus, ok? Et notamment les Davidiens, hein, qui, eh bien, que vous connaissez certainement, les adventistes davidiens, qui sont des adeptes de la doctrine de M. Victor Tachou-Houtef, croient en cela, en fait, d'accord? Et l'un des textes sur lesquels ils se basent, tous pour défendre cela, il y en aurait beaucoup, mais je veux juste prendre le texte principal. Okay? Il se trouve en Ésaïe, chapitre 11, Ésaïe, chapitre 11, et du verset 11 jusqu'au verset 16. Je dis Ésaïe 11, du verset 11 à 16. Et là, nous lisons en Ésaïe 11, 11 à 16, « En ce jour-là, le Seigneur étendra encore une fois la main pour racheter les restes de son peuple qui seront réchappés de la Syrie, de l'Égypte et de Pathros, de Cush, d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Il élèvera un étendard vers les nations. Il recueillera les exilés d'Israël et rassemblera les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre. Alors la jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et les oppresseurs seront retranchés de Juda. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda n'opprimera plus Éphraïm, mais ils voleront sur l'épaule des Philistins vers la mer. Ensemble, ils pilleront les enfants de l'Orient. Ils étendront leurs mains sur Édom et Moab. Les enfants d'Amnon leur seront assujettis. Et l'Éternel mettra à sec le bras de la mer de l'Égypte. Il lèvera sa main sur le fleuve avec un souffle terrible. Il le partagera en sept ruisseaux et fera qu'on y passe avec des chaussures. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera réchappé de la Syrie comme il y eut une pour Israël lorsqu'il remonta du pays d'Égypte. Si cette prophétie concerne la Canaan terrestre, c'est-à-dire la Palestine là, que nous avons à l'heure actuelle, alors nous sommes obligés de conclure que les sept ruisseaux ou canaux sont littéraux, ceux dont on nous parle au verset 15. Ils seraient littéraux alors. Mais aussi que l'accomplissement du verset 14 sera littéral. À savoir qu'à un moment, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va dominer les Philistins, on va piller les enfants de l'Orient et on va également dominer les autres en fait. Donc, l'Église de Dieu, ok, que Jésus, à laquelle Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». D'accord. Alors, à un moment, finira par dominer les nations pour pouvoir s'établir en Israël, en fait. OK? Mes amis, le fait est que ici, cette prophétie porte sur l'entrée dans la Canaan céleste et que les événements décrits du verset 11 à 16 sont symboliques, comme on le voit ici. Il est dit qu'ils pilleront les enfants de l'Orient. D'accord? N'est-ce pas là des principautés? N'est-ce pas là des puissances? Et qu'est-ce qu'il nous est dit de Jésus en Colossiens 2, versets 14 et 15? Colossiens 2, versets 14 et 15. Lorsque vous pillez quelqu'un, vous le dépouillez, n'est-ce pas? OK. Alors lisons Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Mes amis, Ellen White est clair là-dessus. Dans Premiers Écrits, à la page 74, paragraphe 1, le 23 septembre, le Seigneur me montra qu'il avait étendu la main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple. Et là, elle cite, mot pour mot, les paroles du verset 11, mes amis. En tout cas, certaines paroles. D'accord? Et elle renvoie à la page 86. Mais on va considérer ça plus tard. Mais pour l'instant, on termine ça. Et que ses efforts redoubleraient pour effectuer ce rassemblement. Dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré. Aujourd'hui, Dieu guérit et rassemble son peuple. Pendant la dispersion, les efforts tentés pour répandre la vérité ont été insuffisants et n'ont produit que peu de résultats. Mais pendant le rassemblement, alors que Dieu réunit son peuple, la proclamation de la vérité portera ses fruits. Tous doivent être unis et zélés. Remarquez ici qu'elle parle, elle nous parle du rassemblement de son peuple. Et qu'elle nous parle d'une vérité. Elle nous parle d'une vérité qui est liée à ce rassemblement. D'accord? Et au passage, je voudrais vous signaler la fin. Elle dit « Tous doivent être unis et zélés ». Là, il est question d'unité et de zèle, mes amis. Tous doivent avoir la même couleur de peau. Parce que si on revient sur les Israélites noirs, forcément, et qu'on nous parle du rassemblement, eh bien forcément, c'est le rassemblement des Noirs aussi, n'est-ce pas? OK? Mais est-ce que c'est ce qu'elle dit ici, là? Mais remarquez la page 86. La vision où il était dit que le Seigneur avait étendu la main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple ne se rapporte qu'à l'union et à la force qui existait une fois parmi ceux qui attendaient le Christ. Et au fait que le Sauveur avait commencé à rassembler à nouveau son peuple. C'est parce que le Seigneur a fait, mes amis, vers un peu avant la moitié du 19e siècle, en faisant les mille rites, sonner de leur voix comme une trompette, et après on n'a pas entendu le message du deuxième ange, elle est tombée Babylone la Grande, et ils ne sont pas sortis. C'est pas là que le rassemblement a commencé, mes amis? Lorsqu'ils sont sortis des églises de Babylone? Oui. Remarquez, de Babylone. Tout comme le peuple d'Israël était en captivité dans la Babylone terrestre, la Babylone ancienne, et que Dieu les a appelés à sortir pour les ramener dans leur pays, de même, Dieu appelle son peuple des organisations religieuses corrompues de manière à les préparer pour les faire entrer dans la Canaan céleste, mes amis. Et c'est ça le rassemblement dont il est question. Cela n'a rien à voir avec le fait de rassembler les Noirs, de les mettre ensemble, de savoir que oui, vous êtes le peuple de Dieu, remettez-vous bien, l'esclavage c'est fini, on va dominer, etc. Non, mes amis, ce n'est pas ça du tout. Et ça n'a rien à voir avec ce que M. Houtef enseigne et n'importe quelle autre personne qui, je ne sais, sur cette terre va vous dire qu'il faut retourner en Palestine avant le retour de Jésus. Et continuons. Dans Prophète et Roi, à la page 289 et 290, elle cite Ésaïe 60, versets 1 à 4. Le verset 10, le verset 11 et le chapitre 45, verset 2. Et après, elle dit les choses suivantes. Ces prophéties annoncent un grand réveil à une époque où règnent d'épaisses ténèbres. OK? Elles trouvent leur accomplissement dans les stations missionnaires établies de nos jours dans les régions les plus reculées du globe. D'ailleurs, au passage, retenez qu'elle a dit le mot globe. D'accord? Retenez-le. Bon. Les missionnaires qui travaillent en pays païen sont comparés par le prophète à des bannières flottant très haut et destinées à guider ceux qui cherchent la vérité. Et juste après ça, remarquez, elle va citer Ésaïe 11, versets 10 à 12. OK? En disant, « En ce jour-là, dit Ésaïe, le rejeton d'Israël sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire vers sa demeure. » Dans ce temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. Donc, lorsqu'elle disait que ces prophéties trouvent leur accomplissement dans les stations missionnaires établies de nos jours dans les régions les plus reculées du globe. Les missionnaires qui travaillent en pays païen sont comparés par le prophète à des bannières flottant très haut et destinées à guider ceux qui cherchent la vérité. Est-ce que cela est compatible avec un quelconque rassemblement de la race noire, mes amis, pour aller en Israël ou un truc comme ça? Non, mes amis. Cela n'a même pas un quelconque rapport avec un rassemblement de l'Israël de Dieu, donnez-lui la définition que vous voulez, Israël selon la chair, Israël spirituel, pour les faire se diriger vers un lieu géographique de cette terre, mes amis. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout ce qu'elle est en train de dire ici. Le jour de la délivrance est à la porte. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. De Chroniques 16, verset 9. Parmi toutes les nations, les peuples et les langues, le Seigneur voit des âmes qui prient pour connaître la vérité. Ces âmes se sont longtemps nourries de cendres, voir Ésaïe 40, verset 20. Égarées par l'ennemi de toute justice, elles tâtonnent comme des aveugles. Pourtant, elles sont sincères et aspirent après une vie meilleure. Bien que plongées dans l'abîme du paganisme et dépourvues de toute connaissance de la loi de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, elles ont montré de multiples manières les résultats de l'œuvre divine sur l'esprit et le caractère. Mes amis, premiers écrits maintenant, nous allons lire. Premiers écrits, page 75, paragraphe 2, nous montre qu'il n'y aura certainement pas un retour à Jérusalem. On me montra alors des gens qui étaient dans une grande erreur, dit-elle. Ils croyaient que c'était leur devoir de se rendre à Jérusalem où ils devaient faire une œuvre avant le retour du Seigneur. De tels égarements ont pour but de détourner les esprits de la proclamation du message du troisième ange. Car ceux qui veulent aller à Jérusalem ne pensent qu'à cela. Et afin de couvrir les frais de leur voyage de voyage pour eux-mêmes et pour d'autres, ils en arriveront à priver de leurs moyens la cause de la vérité présente. Je vis qu'il ne résulterait aucun bien d'un tel projet. Il faudrait beaucoup de temps pour arriver à convaincre quelques Juifs de la première venue du Messie, et bien plus encore pour les faire croire à la seconde. Je vis, et d'ailleurs, notez au passage ici qu'elle dit de convaincre quelques Juifs. Donc, à son époque, il y avait des Juifs là-bas, en fait. Il y avait des Juifs là-bas. Mais vous savez que les gens qui croient que l'Israël est noir, ils vous disent que les Juifs qui sont là-bas, ce n'est pas des vrais Juifs. Mais pourtant, elle dit que des Juifs, hein? Bon. Bref, continuons. Je vis que Satan avait grandement égaré certaines personnes à ce sujet, que des âmes autour d'elles auraient pu être éclairés par leur ministère et conduits à observer les commandements de Dieu. Mais elle les laissait se perdre. Je vis aussi que l'ancienne ville de Jérusalem ne sera jamais reconstruite, mais que Satan faisait tout ce qu'il pouvait faire pour égarer à ce sujet les enfants de Dieu à l'époque du rassemblement, afin de les empêcher de consacrer tout leur intérêt à l'œuvre actuelle du Seigneur et de leur faire négliger la préparation nécessaire pour le jour du Seigneur. Mes amis, il n'y aura pas de rassemblement à Jérusalem terrestre avant le retour de Jésus, dit Ellen White. Et pas à Jérusalem et même pas en Palestine, voyez-vous. Dans Prophète et Roi, à la page 228, paragraphe 4 et 230, paragraphe 1, elle dit, et là elle va citer Amos et Osée, « Les prophéties d'Amos et Osée concernant le châtiment divin parlaient aussi de gloire future. Mais pour les 10 tribus, si longtemps rebelles et impénitentes, il n'était fait aucune promesse de retour en Palestine. Elles devaient, jusqu'à la fin des temps, errer parmi les nations. » Autrement dit, mes amis, jusqu'à présent et jusqu'à la fin des temps, elles seront dispersées, mes amis. Il n'y aura pas de rassemblement d'Israël selon la chair. Rassemblement total global, il n'y aura pas ça, elle dit. Toutefois, Osée prédit à Israël qu'il aurait le privilège de participer à la restauration finale. À la fin des temps, au moment où le Christ apparaîtra comme roi des rois et seigneur des seigneurs, le prophète déclarait, « Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, ajoutait-il, ils reviendront, ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. » Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Osée 3, 4 et 5. En ce temps-là, et prêtez bien attention à ce qui va suivre, en ce temps-là, le reste d'Israël et les rachetés de la maison de Jacob s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Ésaïe 10, verset 20. De toute nation, de tout peuple, quelques-uns répondront avec empressement au message. Lequel? Quel message, mes amis? Quel message? Exactement. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et oui, parce que c'est un message qui sera annoncé à toute nation, tribu, langue et peuple. Ils abandonneront toutes leurs idoles qui les attachaient à la terre pour adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ils se dégageront de tout ce qui les entravait pour être devant ce monde comme des monuments de la miséricorde divine, obéissant à la loi de Dieu. Ils seront reconnus des anges et des hommes comme ceux qui sont restés fidèles au commandement de Dieu et à la foi de Jésus. Apocalypse 14, 6, 7 et 12. Je vous pose une question, mes amis. Lorsque nous prêchons le triple message, qu'est-ce qui va se passer? Et que nous le prêchons comme nous devons le faire, à toute nation, tribu, langue et peuple. N'y aura-t-il pas des descendants d'Israël, selon la chair, qui vont l'entendre et qui vont se joindre à nous? Et qui sont dispersés et qui le seront jusqu'à la fin des temps? Et bien évidemment que oui, mes amis. Bien évidemment que oui. Et ils vont revenir dans la foi. D'accord? Et après, et c'est ça le rassemblement, mes amis. Ce n'est pas quelque chose de littéral qui se fait et puis après on voit un peuple se former, etc. Ça, c'est de la politique, mes amis. Ça, c'est de la politique. Cette théorie-là nous fait rentrer en politique, mes amis. Et c'est pour ça qu'il y a eu des dérives dans le mouvement davidien. Par rapport à ce niveau-là. Non, mes amis, non. Rappelez-vous tout à l'heure que Ellen White a dit, elle a parlé du globe, de toutes les stations missionnaires autour du globe, n'est-ce pas? Vous vous en rappelez? D'accord. Aujourd'hui, il y a une théorie qui s'intitule, il y a quelqu'un ici qui sourit devant moi parce que quand elle a découvert ça, ça lui a fait rire. Il y a une théorie qui s'intitule la théorie de la Terre plate. Alors, vous m'excuserez, mais je ne prends pas le temps de vous présenter toutes ces théories de A à Z parce qu'il est déjà, midi 20. Dans 10 minutes, je suis censé terminer. Mais je vous envoie sur YouTube pour chercher toutes ces théories-là, bizarres-là. Vous allez sur YouTube. YouTube a tout ce qu'il vous faut pour voir. Vous allez sur Google. Google va vous donner à boire et à manger là-dessus. D'accord? Et d'ailleurs, c'est parce que je pense qu'on passe trop de temps sur YouTube et Google que beaucoup de nos frères et sœurs finissent par croire en ces choses-là. D'accord? Mais Si, mes amis, on passe notre temps dans l'esprit de prophétie et dans la Bible, je pense que quand le vent soufflerait, je pense qu'il y aurait un minimum de personnes qui seraient emportées, mes amis. Selon cette théorie-là, eh bien, c'est d'après l'image. L'image va parler pour elle-même. La Terre ressemblerait à ça. OK? Excusez-moi, c'est un disque. D'accord? La Terre serait plate.
Mais pourquoi tout le monde rigole ici?
La Terre serait plate. Et le soleil et la lune, en fait, tourneraient en haut, en fait. Donc, la Terre ne tournerait pas autour du soleil et la lune ne tournerait pas autour de la Terre. Et, bref, la Terre serait plate. Voilà. Et, alors, je demande du sérieux, s'il vous plaît, je prêche. Calmez-vous. Les observateurs du sabbat lunaire ont pour habitude de croire que la Terre est plate. D'ailleurs, lorsque vous allez sur le site de World Last Chance, qui est le ministère mondialement reconnu pour annoncer la théorie du sabbat lunaire, leur logo... C'est une Terre plate, OK? Donc, voilà. Notamment, ils se basent sur le livre d'Enoch aussi pour dire cela, etc. Et au passage, d'ailleurs, je tiens à dire que le livre d'Enoch que beaucoup de gens, derrière lequel beaucoup de gens courent, présente beaucoup de contradictions par rapport aux 66 livres de la Bible que nous avons. Mais mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. La Bible que nous avons ici, voyez-vous, c'est un livre que Dieu nous a donné pour quoi? Pourquoi? Est-ce que c'est un livre que Dieu nous a donné pour connaître des choses cachées? Non. Est-ce que c'est un livre que Dieu nous a donné pour connaître tout ce qui est scientifique et qui existe dans cet univers, tous les secrets de la science de l'univers? N'est-ce pas un livre qui nous a été donné pour nous donner la science du salut? Amen. Amen. D'accord. Par conséquent, lorsque les auteurs de l'Ancien Testament nous parle des fondements de la terre, des eaux au-dessus, le ciel du ciel, et tout un tas d'expressions qui, a priori, ne semblent pas s'harmoniser avec un globe ou une planète. Rappelez-vous qu'il y a des figures de style dans l'Écriture, des expressions. D'accord? Pour imager. Mais il y a peut-être un élément que j'aimerais vous montrer dans la Bible qui vient invalider la terre plate, mes amis. C'est que pour les partisans de cette théorie, en fait, il n'y aurait que ça dans l'univers, en fait. Et oui, ça veut dire qu'il y a la terre et il y a un dôme. D'ailleurs, au passage, quand vous êtes platistes, et c'est comme ça qu'on les appelle les platistes, eh bien, vous croyez qu'il y a un dôme, en fait, et que la NASA ne peut pas envoyer de fusée, en fait, et que toutes les fusées, en fait, qu'ils envoient, eh bien, désolé, vous allez rire, mais en fait, elles restent plantées dans le dôme, en fait. Elles ne vont pas plus loin, en fait. Bon. Et en fait, la NASA est en train de mentir aux gens. Bon, bref. Alors, lorsque vous parlez de ça, eh bien, pour eux, en fait, eh bien, le ciel, là où il y a le trône de Dieu, eh bien, il se trouve juste au-dessus du dôme, en fait. D'accord? Donc, il y a le dôme. Imaginez-vous le dôme ici, voilà. Et le ciel, le trône de Dieu, est juste au-dessus. Et en fait, il n'y a rien d'autre après derrière. Donc, il n'y a pas d'autre monde, d'autre planète, d'autre truc. C'est ça, en fait. D'accord? Mais mes amis, Jésus dit qu'il a laissé les 80, en parlant d'un berger, il a laissé 99 autres brebis pour chercher celle qui s'est égarée. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus n'a-t-il pas laissé d'autres mondes qu'il avait créés avec son Père pour venir chercher les terriens, pour venir sauver la terre? Donc cela a déjà vient invalider la théorie de la terre plate, mes amis. Et en plus de ça, nous avons Hébreu 1 qui nous dit qu'il a créé les mondes. Louis II dit « le monde », mais la King James nous parle des mondes, en fait. Et voyez-vous, l'esprit de prophétie a quelque chose à nous dire à ce propos. Car voyez-vous, toutes les théories que nous avons de nos jours, c'est des choses que nos pionniers ont rencontrées, mes amis. Même la théorie du sabbat lunaire, elle avait une sœur à l'époque d'Ellen White et qui a permis à Ellen White de clarifier que le sabbat, on pouvait bien le reconnaître, d'accord? Je ne dis pas que la théorie du sabbat lunaire existe à l'époque d'Ellen White, mais elle avait une doctrine qui était très similaire et qui impliquait les mêmes choses, en fait. C'est la théorie de la deadline. Donc, dans Manuscrit Pulis, volume 21, à la page 412 à 400 et 413, elle dit « J'apprends par des lettres en provenance de New York que Frère Brown a accepté et est en train de prêcher la théorie de la Terre plate. Est-il possible que cette théorie ait été importée d'Angleterre par Frère Wilcox et que vous l'ayez acceptée et êtes en train de l'enseigner? Mon frère, notre œuvre consiste à enseigner le message du troisième ange. Tenez-vous au message. C'est une faiblesse de l'ancien Wilcox de mettre la main sur des passe-temps et de se tenir à des choses qu'il aurait dû laisser passer. Satan attirera les esprits des hommes à s'attarder sur tout type de théorie ou de passe-temps afin qu'ils ne s'engagent pas dans la proclamation du message solennel pour le temps présent. Ne soyez pas, mon frère, empêtré dans des idées qui n'ont aucun lien avec l'œuvre pour ce temps. Mieux vaut enseigner la vérité telle qu'elle est en Jésus. Mieux vaut chercher la vraie piété, la sainteté du cœur, la libération de tout égoïsme, la libération de toute envie et jalousie. Il vaut mieux prier et humilier l'âme devant Dieu et laisser le monde, rond ou plat, être comme Dieu l'a fait. Essayez avec la plus grande fermeté, en continuant à bien faire, de rechercher un titre parfait dans l'héritage de la nouvelle terre. Mieux vaut conduire le troupeau de Dieu à boire dans les cours d'eau supérieurs. Mieux vaut, par le précepte et l'exemple, chercher Dieu alors qu'il peut être trouvé. Invoquez-le tandis qu'il est proche. Un réveil est nécessaire dans l'Église. Lorsque les enseignants boivent l'eau fraîche du puits de Bethléem, ils peuvent conduire les gens vers la source d'eau vive. Mon âme est alourdie par le fardeau de la condition des choses à New York. Puisse le Seigneur susciter des aides, des hommes qu'il peut enseigner, des hommes humbles qu'il peut amener à porter un témoignage clair et net dans la foi. Que Dieu vous aide à rechercher sa face, à marcher prudemment et à vous mettre hors de vue et à exalter Jésus. J'espère que Frère Wilcox sera un homme véritablement converti. C'est son grand besoin à l'heure actuelle. Il veut de la douceur, il veut de l'humilité, il veut de la vraie piété. Et sans elle, il est comme les reins qui résonnent ou comme une cymbale qui retentit. Son âme et votre âme ont besoin de la présence intérieure de Jésus. Que le monde soit rond ou plat ne sauvera pas une âme. Mais si les hommes croient et obéissent, cela signifie tout. Il y a des personnes qui vous disent que lorsque vous croyez que le monde est, c'est un globe, que la terre est ronde, etc., ah, c'est un mensonge de Satan, ça ne va pas te sanctifier, il faut délaisser tout ce qui est mensonge, etc. L'esprit de prophétie me dit que je crois que ce soit rond ou plat, ça ne va pas me sauver, mes amis. Et elle a dit au début que cela, elle a fait comprendre tacitement que cela n'a pas sa place dans le message des trois anges. OK? Je paraphrase. Elle a dit que cela n'a pas sa place dans le message des trois anges. Et regardez ce qu'elle dit dans Manuscript 155 en 1904 à la page 78. Quelqu'un est venu me voir avec le désir de me communiquer des informations sur un monde rond ou plat. Je n'ai pas du tout une telle charge sur mon âme, lui ai-je dit. Je n'ai rien à vous dire, ni à personne, au sujet d'un monde plat ou rond. Ce que nous voulons, c'est un caractère rond. Nous avons un caractère complètement plat et nous voulons maintenant penser à former un caractère qui soit rond et parfait, comme notre Père qui est au ciel est parfait. Et nous voulons que chaque talent que vous avez soit en exercice. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de la vérité, afin que vous puissiez aller de l'avant. Et que dit le Christ? Enseignez-leur tout sur un monde rond? Non! Ce que je vous ai commandé, c'est ce que nous devons enseigner. Enseigner les leçons que Christ a données dans sa pratique de la vie. Comme je vous disais tout à l'heure, mes amis, Christ n'est pas venu ici pour nous enseigner des choses cosmologiques. D'accord? Il n'y a pas, mes amis, d'enseignement dans la Bible qui va nous dire comment le cosmos fonctionne. On sait qu'il y a une lune, il y a le soleil, il y a les étoiles. Ça, on le sait, mais comment cela fonctionne, comment cela est fait, etc. Il n'y a pas d'information là-dessus, mes amis. Ce n'est pas ce que Jésus veut nous apporter, mes amis. Vous n'allez pas pouvoir établir une théorie avec la Bible en tout cas. Ce n'est pas avec la Bible que vous allez démontrer que c'est rond ou plat ou quoi que ce soit. Il y a, mes amis, c'est juste pas ça. Maintenant, elle déclara une autre chose dans Manuscript Releases, volume 21, à la page 414, paragraphe 2. « Je suis heureuse de vous dire que le Seigneur m'a fortifié le jour du sabbat afin de porter un message net. À son nom soit toute la gloire. Je sais que l'impression a été faite par son Saint-Esprit. Dimanche après-midi, j'ai insisté sur la vérité avec plus de fermeté et de puissance. Un homme qui était présent avait exprimé le désir de me voir afin de me parler du monde rond ou plat. Je lui ai envoyé un message selon lequel, lorsque Christ m'a commissionné pour accomplir l'œuvre qu'il avait placée sur moi, le monde plat ou rond n'a pas été inclus dans le message. Le Seigneur avait pris soin de sa maison, de son monde ici-bas, mieux que n'importe quel agent humain pouvait en prendre soin. Et sans message de la part du Seigneur, le silence sur cette question est éloquent. » Le silence sur cette question est éloquent, sans message de la part du Seigneur, elle a dit. D'accord? Donc, si Dieu, maintenant, a une messagère, et qu'il la pousse à écrire des choses, et que dans ces choses, elle donne des informations sous la forme de la terre, est-ce que nous aurons là, alors, de quoi, eh bien, être fixé? OK. Mes amis, dans les écrits d'Ellen White, en anglais, le mot « planet », qui est un terme transparent et qui signifie « planète » en français, d'accord, apparaît 87 fois, dont 54 fois au pluriel. Et lorsque vous cherchez la définition de « planète », mes amis, cela ne s'accorde pas du tout avec la Terre plate, parce qu'il s'agit d'un corps qui tourne autour d'une étoile. Et elle en a parlé 87 fois, republication incluse, dont 54 fois au pluriel. Donc, l'histoire d'un plat avec un dôme et le ciel est au-dessus et il n'y a rien autour, c'est déjà juste erroné, mes amis. C'est déjà juste erroné, en fait, parce qu'elle parle au pluriel. Et voilà quelques déclarations. Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Page 149, paragraphe 4. Cette même énergie créatrice à l'origine du monde est toujours active, soutenant l'univers et continuant d'animer les mécanismes naturels. La main divine guide les planètes dans leur course bien réglée à travers les cieux. Ce n'est pas porté par sa puissance propre que la Terre, année après année, poursuit sa course autour du Soleil et produit ses richesses. Dieu, par sa parole, contrôle les éléments. Il couvre le ciel de nuages et prépare la pluie pour arroser la terre. Il rend les vallées fertiles et fait germer l'herbe sous les montagnes. Psaume 147, verset 8. C'est par sa puissance que la végétation s'épanouit, que les feuilles apparaissent et que les fleurs s'ouvrent. Là, elle parle de planète au pluriel et elle dit que la terre tourne autour du soleil. Les platistes vous disent que non. La terre est plate et le soleil tourne en haut. Voilà. Mais c'est pas ce que l'esprit de prophétie dit, mes amis. Premiers écrits, page 290, paragraphe 1. C'est dans cette désolation que devront demeurer Satan et ses anges pendant 1000 ans. C'est là qu'il sera confiné, qu'il errera ça et là, et qu'il pourra se rendre compte des effets de sa révolte contre la loi de Dieu. Pendant 1000 ans, il pourra savourer les fruits de la malédiction qu'il a provoquée. Limité à la terre, il ne pourra errer sur d'autres planètes pour tenter ceux qui n'ont pas connu le péché. Sa souffrance sera terrible. Depuis sa chute, il n'a cessé d'avoir une activité dévorante. Mais alors, il sera privé de sa force. Il pourra réfléchir à ce qu'a été sa condition depuis sa chute et considérer avec terreur l'avenir qui lui est réservé. Il devra souffrir pour tout le mal dont il s'est rendu coupable et pour tous les péchés qu'il a fait commettre. D'accord? Et vous avez encore dans Éducation à la page 111, paragraphe 1, mais je vous laisserai le noter et je le passerai dans l'enregistrement pour que cela apparaisse sur la vidéo. Voilà. Alors, il y a un autre point. C'est que Ellen White emploie aussi le mot « globe ». Et cela apparaît 126 fois dans ses textes, mes amis. toujours au singulier, en se référant à notre globe. Là, c'est encore plus précis. Hein? Encore plus précis. 126 fois, mes amis. Et vous avez cela dans... alors, des fois, c'est mal traduit. C'est mal traduit, notamment dans l'éducation, à la page 286, paragraphe 3. Ils ont mis la terre, mais dans l'original, c'est du globe. D'accord? Dans évangéliser, pareil, ils ont mis terre habitée, mais en fait, c'est du globe habité. D'accord? Dans événement des derniers jours, page 105, paragraphe 5, elle dit le monde entier, mais en fait, dans l'original, c'est sur le globe. Par contre, dans Vers Jésus, à la page 105, paragraphe 2, là, ils ont bien traduit, ils ont mis « Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air qui circule autour du globe. » Elle ne dit pas que l'air qui est sur le plat de la terre. Elle dit l'air qui circule autour du globe. D'accord? OK? Et vous avez dans Conquérant Pacifique, à la page 28, paragraphe 2, à un moment, elle parle du globe, voilà. Elle dit « Allez vers toutes les nations, leur ordonna-t-il, aller vers les régions les plus reculées du globe, etc., etc. » Et juste un dernier truc. Alors, ça, on va s'appeler pour la fin. Quand j'étais en Serbie, j'ai rencontré un frère qui m'a dit, et je lui ai montré ces choses-là. Il m'a dit, non, mais tu sais, en fait, le White Estate, il modifie les mots, en fait. C'est parce qu'elle a écrit, faut se méfier, et tout. OK. Alors, vous savez quoi? Il y a un site, j'aurais dû le mettre, mais c'est AdventistArchives.org, OK? Donc, Adventist, vous tapez AdventistArchive.org, OK? Et c'est un site de la conférence générale, voilà, où vous avez tous les scans des documents originaux qui ont été imprimés à l'époque d'Ellen White, d'accord? Et donc, là, vous avez tous les scans des Review and Herald, les Sign of the Time et compagnie, en fait. Et je suis allé sur le site, j'ai téléchargé les scans, je lui ai montré, je lui ai dit, regarde, ça a été scanné, ok? C'est ce qui a été imprimé à l'époque d'Ellen White, et ils l'ont scanné, et regarde le mot. Est-ce que le mot là, quand ils ont imprimé à l'époque d'Ellen White, est-ce que c'est un autre mot que sur la version digitale? Je lui ai montré, je lui ai dit, regarde, ça n'a pas lieu, c'est la même chose en fait. Ok? Donc, il y a toutes sortes d'excuses qu'on va trouver pour pouvoir rejeter les évidences, mes amis. Mais, encore une fois, que la Terre soit ronde ou plate. Mais vraiment, imaginons qu'on ne sait pas. Cela n'a pas sa place dans le message des trois anges, mes amis. Cela n'a pas sa place dans le message des trois anges. Et il y a des gens qui vont en parler. Ils vont vous dire, et ils vont essayer de donner à toutes ces théories-là une plus d'importance que le message des trois anges. C'est ce que fait Jeff Pippinger et c'est que ses acolytes. Ils accordent plus d'importance à Daniel 11 qu'au message des trois anges. Et tous les vents de doctrine qu'on a vus, d'accord, les noms divins hébreux, on en fait ça, on les met dans le message des trois anges. On se casse la tête pour les faire rentrer dans le message des trois anges. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Les Juifs noirs, le retour en Palestine et la terre plate. Mais oui, parce que les gens vont vous dire, mais craignez Dieu et donnez-lui gloire, car il a créé les cieux et la terre. Donc, si tu adores une terre, si tu crois en une terre ronde, tu ne pourras pas vraiment adorer Dieu. Mes amis, cela n'a pas sa place dans le message des trois anges, mes amis. Remarquez le témoignage de l'esprit des prophéties, mes amis. Et ça a de quoi vous faire rire, parce que c'est vrai, c'est stupide, c'est absurde. Mais des gens seront perdus par rapport à ça, mes amis. Et moi, ça ne me fait pas rire. Moi, ça ne me fait pas rire. Je vous invite, et nous n'aurons pas le temps de lire, mais dans le ministère évangélique, page chapitre 3, la sainte doctrine, je vous invite à noter, à le lire, parce que c'est trop long pour le lire maintenant. Et je suis déjà hors de temps, vous m'excuserez. Mais lisez-le chez vous. Ministère évangélique, chapitre 3, on a dit, c'est ça? Lisez-le. Nous allons conclure. Des vents de doctrine sont en train de souffler, mes amis, pour pouvoir séduire. Et de manière à ce que nous ne puissions pas arriver à l'unité de la foi. Et Dieu merci, Dieu nous a fait un don, mes amis, le don de prophétie. Et si nous voulons rester fermes, si nous voulons tenir bon, mes amis, et être prêts lorsque Jésus reviendra, ne laissez personne ébranler votre foi dans le don de prophétie. Car 2 Chroniques 20, verset 20 nous dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Si vous avez honte de l'esprit de prophétie, mes amis, moi, je n'ai pas honte hein, de la cité derrière le pupitre. Hein. Et vous savez, comme moi-même, que je suis capable de vous faire un message sans l'esprit de prophétie. Mais mes amis, on a besoin du témoignage de Jésus. D'accord? Nous devons faire partie et rester dans l'église du reste, mes amis. Et l'église du reste garde le témoignage de Jésus, mes amis. Ils ont le témoignage. On ne peut pas renier ça. On ne peut pas en avoir honte sous aucun prétexte. Et on ne devrait pas se scandaliser si le pasteur ou le prédicateur ou n'importe qui cite l'esprit de prophétie, mes amis. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'ils font dans l'adventisme aujourd'hui, dans la dénomination. Ils interdisent aux gens de citer l'esprit de prophétie du haut de la chair. Alors, je peux comprendre que si on insiste trop dessus et qu'on ne montre pas ce que dit la Bible, là, il y a un problème, c'est vrai. Mais, mes amis, le peuple a besoin de ça. Et nous avons besoin de ça, je suis désolé. Et ces choses-là, mes amis, si on ne va pas les chercher, personne ne va les chercher. Parce que ce n'est pas en français, ça, on ne le sait pas. Et pendant ce temps, ben, comme ce n'est pas en français, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça court. Et plein de gens tombent dedans, en fait. Plein de gens tombent dedans. Non, mes amis, non. Je vous en supplie. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.